Vous écoutez
Serial Causeur.
Vous ne m'attendez à rien et je suis quand même déçu.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur. On parle enfin des séries qu'on a vues. Ça a un peu repris. La Watchtower rouvre ses portes avec les gestes sanitaires, évidemment. Avec moi, Stéphane le Bienheureux.
Et bon, bonjour. C'est un peu surprenant, mais oui, bonjour.
Maxime le Bien-Nommé.
C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai.
Ton prénom. Marina la Bienfaisante.
Ah ok, bonjour.
J'ai peur.
Et Aki la Malfaisante.
Ah oui,
super,
bravo.
Super.
C'est soit ça, soit la Mal-Nommée, mais bon, Mal-Nommée. Bon, allez, on va parler tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. La grosse série, ça a été quand même WandaVision, parce que c'était le retour de Marvel après des mois et des mois de non-sortie au cinéma. Donc, c'est sur Disney+. C'est la première série Marvel de Disney+. C'est avec Elisabeth Olsen et avec Paul Bettany. Qu'est-ce que ça a donné? Qui a vu? Qui veut en parler en bien?
Peut tous en parler en bien? Ça, je ne sais pas.
Moi, je vais en parler en bien parce que je trouve ça couillu. Certes, je pense que tout le monde l'a entendu un peu partout, mais l'histoire des sitcoms revisitées à la sauce Marvel, je trouve ça vraiment très fort après tout ce qu'ils ont proposé pendant 10 ans. Je crois que...
Un produit aseptisé quand même, parce que là...
Voilà. Ouais. Et du coup, je trouve que ça donne un sacré vent frais dans l'univers. Après, au niveau des épisodes, ils revisitent à chaque fois une sitcom différente. Donc la première, c'était I Love Lucy, je crois.
Ouais. Ou The Dick voilà. Van Dyke Show.
Voilà.
Je savais pas trop, en fait.
La seconde, Ma Sorcière Bien-Aimée, et la troisième, j'ai pas trop trouvé.
Le Brady Show.
Ouais, voilà.
C'est vrai. Maintenant que tu le dis, je vois.
Bref, donc, c'était les années 50, 60 et 70. Ouais. Voilà.
C'est assez reconnaissable, mais j'ai adoré les deux premiers épisodes. J'ai trouvé ça loufoque. J'ai trouvé ça bien fichu dans le mystère parce qu'il nous donne quelques petits indices pour essayer de comprendre où on en est, en fait, dans l'histoire générale sans nous remettre tout de suite dans le bain. J'ai un peu moins aimé le troisième parce que je trouve que justement la dynamique elle est un peu trop répétitive, mais Elisabeth Olsen elle a l'air de se marrer à faire ça.
Oui.
Enfin tous les acteurs, et il y a Emma Caulfield dans le deuxième épisode, et rien que pour ça je signe pour la saison.
Eh ben.
Je suis complètement d'accord avec Maxime, mais je trouve quand même, sachant qu'il y a 9 épisodes seulement dans cette saison, je trouve que ça va trop lentement. Je suis désolée, mais d'avoir le petit indice à la fin d'un épisode pour dire ah oui en fait tout ne va pas si bien que ça, sans pouvoir nous donner un peu plus à grignoter. Enfin, donnez-nous un os à ronger, quelque chose, quoi.
Oui,
franchement,
clairement.
Là, en 3 épisodes, je suis désolée, ça n'avance pas assez pour moi. Alors oui, c'est drôle. Alors ouais, c'est sympa de les voir se marrer, etc. D'ailleurs, je suis toujours choquée que Paul Bettany ait plus du double de l'âge d'Elisabeth Olsen. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Oui, donc voilà, pour moi, vraiment, ça ne va pas assez vite. Et je voudrais comprendre un peu mieux la série, quoi. C'est super, les théories, mais oui. À un moment, je veux du vrai. Le canon.
C'est un peu le problème du troisième épisode où justement on voit un peu les limites parce qu'il redonne des petits indices, mais au final on n'arrive pas à se raccrocher à une deuxième histoire parallèle à ça. Et
oui.
C'est là où j'espère qu'au quatrième épisode ils vont se dire bon les gars on met un coup d'accélérateur et on leur donne vraiment un truc assez énorme.
Alors moi j'ai eu du mal à rentrer le premier épisode, les premières minutes elles sont hyper déstabilisantes parce que je voyais pas trop où ils voulaient en venir et tout, après tu comprends, mais au début moi je m'attendais pas forcément à ça, et moi aussi j'ai vraiment aimé, et moi je suis fan d'Elisabeth Olsen pour le coup, et je trouve que l'alchimie avec Paul Bettany elle est là, Emma Caulfield, bon ben voilà, et
Catherine
ouais
Anne.
Moi j'ai bien aimé, pardon.
Il y a oui. Catherine Anne également.
Ouais, clairement.
Ouais, mais moi je suis plus Emma Caulfield quand même. Mais
c'est Catherine Anne qui a quand même plus de trucs à faire que Emma Caulfield, mais bon après.
Ouais, mais voilà, juste parce que t'as l'estampe un peu Buffy, t'es content quand même. Moi je suis très optimiste pour la suite.
Moi pour le coup je suis un peu comme Maxime, en fait j'ai beaucoup aimé les premiers, surtout parce que ça revisitait des sitcoms et c'était classe de les voir, mais vraiment tout reprendre, le jeu des acteurs, la façon dont c'est filmé, enfin bon bref c'était vraiment passionnant à regarder. Le troisième j'ai un petit peu décroché, mais en fait c'est là où je sais que pour moi ça va atteindre la limite, je n'aime pas Marvel au cinéma et je crois que je ne vais pas aimer Marvel quand ça va s'inviter dans les séries, quoi. Donc,
mais attends, tu dis ça, mais t'as pas du tout aimé les Daredevil et les etc.
Ah non, clairement pas, non. Mais,
zéro. Mais aucun, ça t'aime aucun de. Ah ouais, d'accord.
Non, mais la même chose que.
Si, la première saison de Jessica Jones, mais en soi, après, c'est, on s'en fout. Mais, et Agent of Shield, mais bon, après, Agent of Shield est tellement de mise de côté que ça n'a strictement aucun intérêt. Et les celles de Netflix, ça ne rentrait pas dans l'univers.
Ne t'énerve pas.
Oui, en soi, celles de Netflix, elles étaient prévues pour Netflix. Enfin, voilà, vraiment, pour moi.
Là, c'est parce que tout est dépendant et on sait que ça nous prépare la phase 4. Ils s'amusent à dire oui, voilà le début de la phase 4, c'est avec WandaVision. Ouais, mais bon, super. Ben, en fait, je me fais chier quoi. La fin de l'épisode 3, ben, ça se voit qu'il y a du Marvel. Il y a Marvel qui revient avec ses gros sabots et voilà, ça me casse mon délire quoi. Donc,
je regarde. Mais toi, t'as accepté le délire dès le début et tu voudrais que ça reste comme ça.
Ouais,
j'aurais. Il y en a qui acceptent les deux, Marvel plus ce délire, et à moi qui n'accepte pas le délire.
Mais
qui
accepte Marvel. C'est là où c'est que j'aimerais avoir des gens lambda qui aiment les films Marvel et avoir leur retour sur la série WandaVision. Parce que franchement, les deux premiers épisodes, le fan lambda aimé et a compris, franchement, je trouve ça dingue, quoi.
Pour ça, moi, j'ai mon colocataire qui ne regarde très peu de séries. Enfin, je pense qu'en 2 ans, il a dû en regarder une. Et et qui s'est mis à WandaVision parce qu'il est fan de Marvel, mais vraiment très très fan, c'est à cause de lui que j'ai été voir tous les films, et qui a beaucoup aimé les deux premiers, parce que justement c'était différent, et il s'est dit qu'enfin Marvel allait changer un petit peu, parce que la phase était terminée, enfin, il avait toutes ses théories, et il se disait « ouais ok d'accord, ça va avec le nouveau Spider-Man », enfin bref. Et il a été un peu déstabilisé justement par le troisième, parce qu'il trouve que ça va trop lentement.
Ah, mais j'ai une question, du coup, parce qu'il y a quand même un comics WandaVision, et donc, quel est le rapport? Est-ce qu'il y a un véritable rapport avec le comics ou pas du tout, vous savez, ou pas?
Bah, c'est le fameux arc, c'est quoi? C'est House of M,
je crois. House of M, je crois, oui. Je l'ai lu, mais oui, ça doit être ça. Ouais. Si, non, mais il y a des rapports. Hein. Et puis, alors, moi, par contre, le seul truc que j'aime bien faire, c'est aller voir les articles américains qui te font de la liste de tous les historiques que t'es que t'es censé être trop débile pour pas avoir vu, et en fait tu les vois tous, parce que en même temps Marvel ils insistent bien avec avec une caméra qui s'arrête bien 2 secondes sur un gros voilà, et bon après tu lis, ouais bon bah, ouais ça c'est un truc qui vient de ce comic là, donc ça voudrait dire ça, ouais, mais en même temps les gars les enfants oui d'accord, ok, j'ai compris qu'il y a des enfants qui allaient arriver dans l'épisode 2, ouais bah, je suis pas débile non plus quoi, enfin bon voilà quoi, bon enfin bon pas, pas enfin je trouve pas d'intérêt quoi, mais c'est sympa à regarder, mais par contre si ça prend son temps comme sur l'épisode 3 à faire des redites et des pas pseudo parodies qui sont pour le coup, moi l'épisode 3 je l'ai pas trouvé drôle, ça va être compliqué quoi.
Mais après, mais les deux premiers, le malaise que ça instille. Voilà. C'est pas drôle non plus, les deux premiers. Par rapport, je veux dire, pas en premier degré, mais je veux dire, dans l'écriture des vannes, des blagues, c'est pas drôle. Ouais. Le public rit, parce qu'en plus, c'est un vrai public, il rit sur les choses pas drôles.
Oui.
C'est qu'ils ont amené des publics pour faire rire, mais c'est pas.
Mais c'est parce que c'était pour aussi rappeler ce
qui se passait. Oui, dans ces cas-là, tu mets des faux rires, tu vois.
Ouais, je sais pas.
T'amènes pas des gens. Plus qu'ils vont signer des trucs, des embargos et tout, des gros fans de Marvel. C'est bizarre que, d'ailleurs que rien n'ait fuité, mais bon. En tout cas, c'est une curiosité qu'il faut au moins regarder les deux premiers, voir le troisième.
Et franchement, moi, ça m'a donné envie de me replonger dans Ma sorcière bien-aimée. Donc, c'est pas complètement ahuri, parce qu'en plus, j'ai lu donc, c'est Sapinwall, Alan Sapinwall, qui a écrit un truc sur cet épisode 2 et qui disait quand même que. Bewitched, donc Ma sorcière bien-aimée, était quand même un geste féministe très avant-gardiste, et pour le coup, de mon souvenir d'enfant, je le voyais pas comme ça, et ça mériterait de rejeter un œil dessus, quoi.
Très bien. Et donc, c'est sur Disney+. On passe à Netflix avec Lupin, la série avec Omar Sy, qui a été un gros, gros, gros succès. Il y a des bons retours. Est-ce que par ici, il y a des bons retours aussi?
Tu me demandes, je vais pas te dire oui, je vais pas te dire non plus. J'ai trouvé ça divertissant. Ça se regarde très bien. Pour le coup, c'est un joli produit. Mais alors après, qu'est-ce que c'est creux C'est dommage d'être allé chercher Louis Leterrier pour faire un truc aussi insipide, quoi. Enfin, le mec, il vit aux États-Unis, il fait des trucs qui tournent mal à la rétine, et là, il vient en France, il te fait un truc, ben, en fait, tu te fais chier, quoi. Donc, bon, je trouve ça un peu.
Mais attends, dans quel sens qu'il fait mal à la rétine? Dans le sens où il y a des effets spéciaux?
Ah, mais c'est des effets spéciaux, sa caméra, elle bouge tout le temps, et là, elle fait rien, quoi.
Bah, enfin, c'est plat,
ça aide pas à plonger dedans, quoi. Et après, bon, moi, fan de Arsène Lupin, de l'œuvre de Maurice Leblanc, je suis un peu sur ma faim, je suis un peu déçu de ce qu'on nous a proposé, quoi. J'aurais préféré une adaptation fidèle, voilà,
mais ça m'aurait fait plus
plaisir, plutôt que cette pauvre lecture qui est certes divertissante. Alors, c'est très bien que ça fasse vendre des livres, mais enfin, c'est un peu pas assez pour moi, voilà, personnellement.
Non, mais c'est exactement ce qu'il fallait pour avoir enfin une série française renouvelée par Netflix, je suis désolée. Hein. Enfin, typiquement, c'est du grand public, c'est du divertissement.
J'ai pas dit que c'était mal, hein. Au contraire.
Ouais, t'as juste dit que c'était creux quand même, hein, donc creux, c'est pas non plus le méga compliment quand même.
Non, mais par contre, je l'ai regardé, je me suis amusé à le regarder, donc en soi, c'est pas non plus le truc le plus. Mais ça raconte pas grand chose.
Mais
hein,
c'est très clairement du Netflix en fait. Enfin, c'est juste que c'est la première fois. Enfin, à mon sens, en tout cas, qu'il réussisse une production française dans le sens où elle se tient. C'est pas. Enfin, je suis d'accord avec toi, Stéphane, sur l'ensemble. Hein, je trouve pas ça dingue. C'est très divertissant. Omar Sy, il s'éclate et c'est cool. Mais en soi, c'est assez. Je dirais pas jusqu'à dire fade, mais ça se regarde. Et pour moi, c'est Netflix, à quelques rares exceptions. C'est du Netflix pur jus. C'est quelque chose que tu regardes tranquillement chez toi. Quand tu te fais chier un dimanche soir et tu l'as oublié. Enfin, dans 2-3 mois, on l'aura oublié.
Voire même une semaine après. Mais
oui. Oui, mais ça, alors, c'est toutes les séries Netflix, même les excellentes séries Netflix, tu les oublies quoi qu'il arrive, tu vois.
Ah non. Crois-moi que The Crown, je ne l'ai pas oublié. Hein.
Et moi, BoJack Horseman non plus. Hein.
Ouais, moi, honnêtement, il y a même les excellentes séries. Alors après, c'est que moi, hein, mais moi, même les excellentes séries Netflix, j'y reviens pas dessus, je les revois pas, ou alors très très rarement. Tu vois, pour une série que je revois, il y en a 25 que je revois pas. Voilà. Et pourtant, je les ai vachement aimées. Tu vois, donc.
C'est à de rares exceptions. Enfin, vraiment, pour moi, c'est très très rare, c'est The Crown et c'est tout.
Ouais, moi, je crois que j'ai revu Zio une fois, mais voilà. Mais bref, donc du coup, moi, Lupin, moi, par contre, j'ai eu beaucoup de mal à y rentrer. Franchement, les deux premiers épisodes, j'étais en mode je vois pas ce que les gens parce que moi je l'ai vu très tardivement par rapport, et donc les premiers retours c'était exceptionnel et tout. Moi j'étais là, ouais, punaise, tu deviens trop critique quoi, parce que moi les deux premiers j'étais en mode Omar Sy, je trouvais qu'il en faisait des caisses, enfin tu vois, j'étais pas super fan. Et après, ouais, et après voilà, hyper divertissant, moi j'ai bien aimé. Ça n'a rien à voir avec Lupin. Je pense que effectivement ceux qui sont fans de Lupin, enfin je pense que ils doivent être
frustrés.
Très en colère, ouais, voilà, je pense que.
Non, en colère, c'est... non, parce qu'après, on peut l'adapter de plusieurs façons, il n'y a pas de souci, mais de quoi être frustré de vue, ouais, si, quand même. Là.
Ouais. Non, franchement, je suis pas d'accord, parce que bah, j'aime beaucoup Arsène Lupin aussi, j'ai lu pas mal, enfin, j'ai pas lu toute la série, mais vraiment beaucoup de tomes. Je trouve que ce que Lupin, ils ont fait là, c'est presque mieux, enfin c'est une meilleure approche que ce qu'ils ont fait avec Sherlock par exemple, parce que tu vois là j'aurais pas voulu voir un Arsène Lupin aujourd'hui, tu vois, gentleman cambrioleur, mais t'imagines, rien que le mot gentleman ça me fait crisper en fait.
Donc
franchement je préfère avoir un mec comme ça qui prend Arsène Lupin comme idole, comme modèle, et qui agit avec un code d'honneur, etc., blabla, ce que vous voulez.
Mais c'est pour ça que j'aurais préféré vraiment un période drama dans les années 20 avec un vrai Arsène. Mais bon, après, voilà.
À qui je suis d'accord avec toi sur l'approche de c'est un fan et on le met aujourd'hui, parce qu'en plus, comme ça coûte moins cher. Moi, mon problème, en fait, c'est qu'il ne pousse pas assez la chose, en fait. C'est pas assez, on n'a pas assez d'éléments qui nous permettent de voir qu'il est fan, à part son père lui a fourni
un livre et c'est toujours le même.
Voilà, on m'a passé un livre quand j'étais jeune, j'ai kiffé, je le passe à mon fils, il a kiffé. Voilà, c'est tout. Enfin, au-delà de ça, il est voleur, mais en fait...
aucun rapport, ça, tu veux dire, quoi.
On a très peu de background sur son passé de voleur.
Mais même sur les personnages secondaires, hein, parce que c'est un peu limité quand même, hein, tout ça, en 5 épisodes. Hein.
S'il y avait un bémol, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait très peu de, comment dire, de tours, quoi, tu vois, de trucs qui fait qu'effectivement, il est, tu dis, ah ouais, punaise, il est super fort, à part le truc de la poubelle, là, le truc qui me revient dans le...
Ah, oh, c'était évident, ouais, ok.
Non, mais ouais, voilà, c'est à part celui-là, sinon, après le reste, je trouve que c'est de l'informatique, en fait, tu vois, je trouve que c'est, il y a moins de... Il n'y a pas de tours, vraiment, où tu dis, ah ouais,
c'est,
le mec...
C'est ça qui est dommage, parce que ce qu'il faisait dans le sel des livres, c'est que enfin, il n'est pas décrit, les personnages changent tout le temps, donc en fait, Arsène Lupin, il n'est pas forcément là, donc tu ne sais pas qui est Arsène Lupin. L'adapter, c'est un peu compliqué, parce qu'à Omar Sy, tu le reconnais, tu te dis, non, on ne va pas me prendre pour une quiche, c'est lui, Arsène Lupin, quoi. Donc, voilà, quoi.
Ouais, il a une vieille barbe pour passer à la
voilà,
télé,
c'est
ouais,
ça.
Je suis d'accord. Moi, voilà, c'était vraiment le qu'il n'y ait pas beaucoup de tours, parce que tu dis, finalement, Arsène Lupin, c'est un cambrioleur vraiment hors norme, et là, tu dis, il s'est juste branché des ordinateurs, enfin, tu vois, en schématisant, mais tu vois, je trouve qu'il n'y a pas assez de tours où tu dis, ah ouais, punaise, c'est vraiment un cambrioleur hors norme.
Et pourtant, c'est quand même lui, Luthéry, qui a fait Les Insaisissables. Donc, dans Les Insaisissables, il y avait quand même de la matière. Donc là, c'est un
peu... Mais moi,
Je sais pas si c'est qu'on est habitué maintenant, à force de regarder des séries, au retournement de situation, mais là, même à la fin du premier épisode, que j'ai trouvé vraiment plutôt pas mal, on se doute, en fait, de ce qui va arriver. Tu t'attends à ce qu'il va y avoir... quelqu'un va dérober le collier, et une autre personne va le dérober, et une autre personne, et en fait, c'est lui qui l'a depuis le début. Ça, tu t'y attends tellement qu'en fait, quand tu vois le truc se dérouler, tu fais j'aurais pu l'écrire 20 minutes avant l'épisode, ça aurait été la même chose. Et c'est un peu aussi mon problème, je sais plus, c'est toi qui parlais de Sherlock, c'est un peu aussi mon problème avec les deux dernières saisons de Sherlock, où en fait, tu peux tout prédire. Tu sais qu'il va se passer un retournement de situation parce qu'en fait, ils construisent leur série autour des retournements de situation. Et pour le coup, ça permet pas d'en faire une série qui se démarque et une bonne série, parce que à côté il y a rien. Ils amorcent un espèce de propos sur les personnes qu'on ne voit pas parce que ils sont agents d'entretien ou ils sont noirs ou tout ça. Et en fait, au final, t'en parles très très peu.
Oui.
T'en parles vraiment
très
peu.
Faux, oui. En revanche, je tiens quand même à féliciter les acteurs qui, pour une fois, honnêtement, j'ai trouvé que c'était vraiment bien joué pour les acteurs français. Vraiment.
Et moi, je tiens à ne pas féliciter le scénariste qui est britannique. Donc, ça me trouve le cul. Donc, voilà. C'est George Kay qui a écrit avec Phoebe Waller-Bridge la première saison de... Il était scénariste pour... Comment ça s'appelle? Merde, le truc est Joey Comer. J'ai oublié. Killing Eve. Donc, quand même, qui avait une certaine plume.
Le truc avec Joey Comer. Oh là là, putain.
Non, mais attends, c'est devenu dégueulasse comme série. Donc, en même temps, c'est normal que j'oublie. Mais donc, voilà. Mais le mec, il avait quand même un certain background. Et alors, déjà, c'est un Brinaï qui adapte un monument français. Et en plus, il apporte rien de sa plume dedans. Donc, je trouve... Enfin, pour le coup, c'est un peu raté tout ça, mais après, c'est quand même divertissant, quoi.
Et voilà. Mais moi qui suis fan de Sherlock, ça me fait de la peine que vous compariez quand même Lupin à Sherlock. Hein. Je dis rien, mais à l'intérieur, je souffre et j'ai le cœur brisé, sachez-le.
On compare dans la
mon âme est en morceaux.
Oui, comme dit Maxime, c'est pas non plus qualitativement parlant.
On lui laisse ramasser les morceaux. Et passons à Bridgerton, qui était le sujet à beaucoup de débats. Sur Twitter et ici.
J'ai hâte.
Maxime, vas-y, dis-nous tout.
moi, il s'est passé un truc très très étrange après Noël, où on est un peu pris dans la spirale de post-fête et tu te mets devant la série la plus pourrie que tu peux trouver. Donc, je vois ça sur Netflix, je me mets devant et en plus j'avais lu plein de retours, mais alors vraiment plein de retours où tout le monde me disait non mais vous allez voir, c'est une série super féministe, c'est du Shondaland, c'est inclusif, vraiment c'est top. Donc je me mets devant la série, je vois le premier épisode.
Plein d'espoir.
Ouais, plein d'espoir. Et je me mets devant le premier épisode se termine et je fais ok, non mais ça vient peut-être après en fait. Et je regarde le deuxième, le troisième, le quatrième, et je fais, mais en fait, on m'a enflé de A à Z. C'est absolument pas une série féministe. C'est absolument pas une série inclusive. Enfin, moi, je trouve que l'inclusivité dans cette série, c'est du marketing. Et de A à Z, en fait, c'est mauvais. Sauf Jonathan Bailey, qui joue le Lord Bridgerton.
Ouais.
Mais après, c'est simplement pour sa plastique, hein, soyons honnêtes. Mais non, vraiment, je trouve ça mauvais de A à Z. Les acteurs sont mauvais, l'intrigue est écrite avec, je pense, un enfant de 5 ans.
Le pire, c'est que c'est adapté d'un livre, quoi. Je te dis, le mec qui a adapté,
mais dans le cas,
tiens, on va pas essayer de le changer un petit peu, quoi. Lui donner
non, mais c'était de la fanfiction avant l'heure, c'est tout, quoi.
Et vraiment, ce qui m'énerve, c'est leur. Déjà, c'est l'inclusivité choisie. On n'a que des noirs dans la série. Il y a pas
mais ça, c'est Shondaland pour le coup.
Oui, oui, mais tu vois, je trouve qu'au bout d'un moment, dans une première série, dans Grey's Anatomy, ça passe. Mais au bout de je ne sais combien de séries et de je ne sais combien d'années, je trouve ça un petit peu light. Et en fait, si ça avait été encore que des acteurs qu'on mettait en tant que noirs et on n'en parlait pas et ils étaient juste là parce qu'on veut montrer plus de gens à la télé, j'aurais compris et j'aurais dit oui. Là, en fait, ils te font une mini-intrigue en disant « Non, mais attendez, en fait, dans la l'aristocratie anglaise, il y avait quand même quelques noirs. Hein. » Et après, on n'en parle plus. Il n'y a pas les problèmes qu'ils peuvent subir. Il n'y a aucun... Il y a vraiment rien dessus. Et on est censé faire passer ça pour une série inclusive. Et vraiment, moi, c'est ça qui m'a mis en colère. Voilà.
Allez-y.
Je veux juste rebondir sur un truc. Je voudrais juste dire que Jonathan Bailey, j'ai reçu des crachats de vue à la figure quand je suis allée voir une comédie musicale de The Last 5 Years à Londres. Et genre, j'étais au troisième rang et postillonnait tellement. Mais incroyable.
Mais vends voilà. ton visage Mais vends ton visage maintenant sur le dark web. Mon Dieu, tu dis visage voilà. qui a reçu des crachats de Jonathan Bailey, mais punaise. Non, mais tu travailles plus jusqu'à la fin de ta vie, quoi.
À qui, mais sois heureuse. On paierait pour ça.
Voilà. Non,
c'est pour ça que je lui dis, vends ton visage.
Voilà, on va garder mon visage où il est très bien. Mais moi, j'attendais vraiment Bridgerton en mode, j'aime beaucoup l'époque victorienne, j'aime quand même bien Shondaland, etc. Donc franchement, j'en attendais beaucoup au premier degré et je pensais pas que ce serait genre nul au premier degré, mais fascinant, voire weirdly obsessive au deuxième degré, quoi. Voilà. Ça aurait pu être mieux, non? Est-ce que ça aurait pu être mieux ou c'est juste ce que c'est et c'est un guilty pleasure et voilà? Vous pensez que ça aurait pu être mieux?
Je pense que c'est juste ce que c'est. Enfin, je vois pas où, je vois pas les points d'amélioration en fait. Je vois pas, il y a pas de base, il y a rien. Je vois pas où ils peuvent aller. C'est pas un Grey's Anatomy où vraiment ça a été vendu comme un soap total et au fur et à mesure ils se sont découverts des ambitions. Ouais. Mais là, en fait. Ils ont tellement tout créé autour de la femme doit se présenter en société pour être mariée et on va même pas aller au-delà de ça. Enfin, mis à part le personnage de sa petite sœur, Héloïse, qui est vaguement féministe. Enfin, vraiment, c'est la personne. Déjà, c'est le type de féminisme qu'on voit tout le temps et je trouve ça un peu limité le féminisme, la féministe en colère contre toute la société. Et a raison, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est le seul qu'on montre. Et du coup, je trouve que ça sert pas forcément la cause de montrer genre une féministe toutes les 2 minutes par épisode et passer à autre chose tout le reste. C'est pour moi, c'est pareil. C'est que du marketing. Donc, je vois pas comment ça peut s'améliorer.
Et donc, c'est à voir et à détester sur Netflix, c'est ça, ça.
Ouais. Mais après, oui, c'est ça qu'on adore détester, quoi. Je tiens quand même à dire que donc l'actrice qui joue Penelope là, donc. Nicola Coughlan, pardon. J'apprécie qu'elle soit mise sous les projecteurs, propulsée même sous les projecteurs. Même Netflix a genre tweeté, c'était peut-être Netflix Angleterre, qui a tweeté son nom et une photo de Bridgerton et genre c'était tout, genre ça, that is the tweet, quoi. Et elle a joué dans Derry Girls, qui est aussi disponible sur Netflix, que vous devriez tous regarder. Voilà.
C'est quoi le titre?
Derry Girls. D'accord.
Eh ben. The Wilds sur Netflix aussi, ça partait d'un mauvais.
Oula, c'est Amazon.
Amazon, enfin, pardon. Non, mais parce que.
Oulala.
Ça partait sur les bonnes séries.
On a failli perdre Stéphane.
Ça partait de mauvaises critiques, c'est pour ça que je pensais que c'était Netflix. Mais en fait, il paraît que c'est une bonne surprise.
Eh ben oui.
Stéphane.
Et oui, pour le coup, comme c'est pas sur Netflix, personne n'en parle, donc c'est ça qui est bien dommage. Et non, c'est une bonne surprise, c'est bizarrement assez addictif, alors que ça est quand même mal embouché. Quoi. On te dit, tiens, c'est des jeunes filles qui se crachent sur une île. Ouais, tu te dis, ok, super, merci. Et on va se retaper du Lost. Et au final, c'est bien plus que ça. C'est quand même assez pervers.
Plus que Lost.
Ah oui.
Impossible.
Ou alors ça s'appelle X-Files, quoi. Mais voilà, quoi.
Non, c'est assez fascinant à regarder, ces portraits de jeunes filles qui se découvrent et qui ont des obsessions et qui ont un certain mal-être et même des problèmes psychologiques et même pas que, mais qui se déclarent à cause de leurs conditions de rescapés sur une île. C'était quand même assez intéressant à regarder. C'était... pour le coup, de temps en temps, assez malsain. Et c'est ça que j'ai bien aimé, ça changeait quand même.
Oui, c'est... Il y a une intrigue aussi. La justification de leur présence sur l'île,
oui.
J'en dirai pas plus parce que ce serait dommage de spoiler, est assez intéressante parce que justement, moi aussi, je m'attendais à un simili Lost. Et en fait, quand le twist arrive, je me dis qu'il peut y avoir vraiment un truc pas SF. Enfin, justement, c'est là l'intelligence du truc, c'est que c'est absolument pas SF. Et pourtant, on est dans une espèce de Lost versus Person of Interest versus toutes les séries sur des adolescentes, et ça donne un mélange assez couillu, mais pas parfait, parce qu'il y a certains épisodes où on voit les trucs arriver et on se fait un petit peu chier.
Oui, et certains épisodes sont quand même assez longs, c'est ça. Enfin, ça varie entre 40 et plus d'une heure, donc il y a des fois c'est un peu chiant. Voilà.
Est-ce que c'est renouvelé ?
Oui. Oui, ça c'est cool. Et puis la fin de la saison 1 ouvre l'univers quand même de manière assez intéressante. Ouais. Et franchement, moi je suis content. Donc voilà.
Et casting, il y a des têtes connues dedans ?
Oui, Rachel. J'oublie comment elle s'appelle en fait.
Griffiths.
Rachel Griffiths. Voilà.
Qui était Brenda dans Six Feet Under.
Mais non. Rachel Griffiths. Ah, mais Sisters. Non. Et dans Brothers and Sisters,
ouais,
c'était ça.
Et dans Brothers and Sisters, ouais.
Et dans.
Mais elle apparaît vraiment après.
Et dans
le mariage de Muriel.
Oui,
dans The Camp aussi, la série que
ah, c'était bien. Ouais, non, c'était bien ça aussi, oui.
À qui, pour répondre à ta question, elle est dans, je pense, tous les épisodes, oui. Une bonne dizaine de minutes.
D'accord.
Voilà. Ah, oui.
Voire même pour certains, beaucoup plus que ça.
Oui.
Ah, ok.
The Watch, est-ce que c'est la grosse série que personne n'a vue ?
Ah, ben non.
Bah, du coup, j'ai pas vu, ouais. J'ai les épisodes quelque part, mais j'ai pas encore regardé.
Et c'est censé être une adaptation de Terry Pratchett, encore.
Chronique, les analyses du monde.
Ouais, et en fait, c'est une catastrophe. j'en ai eu mal aux yeux et à la tête à la fin du pilote. C'était une catastrophe. Non, mais c'était ignoble. Je comprends pas qu'on puisse produire des trucs pareils. Alors, j'aime bien BBC America. Ils ont proposé des choses intéressantes, mais là. Non, quoi, enfin, non.
J'ai une petite question, je l'ai pas vue, mais c'est pas genre enfin, tout le monde sait que toutes les adaptations de Terry Pratchett, comme celle de Stephen King, se plantent à chaque fois.
Ben, va leur dire, mais ils essayent encore et toujours, hein, mais,
oui.
Mais
là, il y a eu
on aura une bonne, quoi, mais non.
Il y a eu The Strand qui a commencé en décembre.
Stand, okay. Ouais.
Et j'ai pas tenu un quart d'heure devant, je me suis endormie.
J'ai une question, est-ce que c'est là The Watch, parce que l'affiche poster m'a vraiment fait penser à Attack the Block, je sais pas si vous vous rappelez de ce film.
Ouais.
Et est-ce que c'est genre dans le même délire ou pas ?
J'ai pas vu Attack the Block, alors je peux pas te dire. Ouais. Par contre, moi quand j'ai vu le pitch et tout ça, je me suis dit tiens, c'est un Doom Patrol qui fait un ersatz, et en fait c'est exactement ça, mais en tellement pas bien du tout. Mais voilà. Mais, donc, mais c'est vraiment dégueulasse. Hein. Je vous mets au défi de tenir jusqu'à la fin du premier épisode.
Mais donc, il y a du budget. C'est-à-dire que le budget est mal utilisé ou
il n'y a pas de budget du tout.
Ben, en fait, s'il y en a, tu le vois pas, quoi. Donc, je peux pas te dire.
C'était dans le budget soirée de fin de tournage, en fait, qu'ils ont tout.
Et dans l'adaptation, même acheter les droits.
Si, peut-être le truc, c'est le monstre en pierre, là, mais encore, enfin, non, quoi. Enfin, non, mais j'en ai mal au cœur, quoi. Ça m'a vraiment fait mal de la peine, quoi.
Il y a des têtes connues dedans ?
Non.
Wendell
non,
Pierce.
Je crois pas.
Merci, Stéphane.
Oui, bon, de toute façon, c'est pas visible en France.
Officiellement, non. Moi, j'ai un cousin d'Amérique.
Ah oui, ça, on a le fameux.
On a le même.
Steven.
Est-ce qu'on peut parler de Walker, qui a commencé là, donc qui est une sorte de remake, enfin pas un remake, mais enfin je sais pas, on a pris la marque Walker, on a enlevé Chuck Norris, donc et on met J'arrête pas d'aller l'équipe, pourquoi pas.
Bah oui, il avait plus de boulot.
Mais il y a quand même Odette Enable et Lindsay Morgan. Donc,
ah, voilà. C'était Lindsay Morgan. Oh putain, je l'avais pas reconnue. ah ouais. Ah oh putain. Oh la pauvre. Oh là là. Ah ouais.
Elle avait commencé la pauvre.
Mais non, mais elle a un rôle de merde. Mais non, mais c'est nul. Mais vraiment très nul. En fait, le seul truc qui était intéressant dans Walker Texas Ranger, c'était Chuck Norris qui faisait du kung fu. Ben là, ça, j'aurais pas d'aller qui fait pas du kung fu, donc ça sert à rien.
Non, mais tout le monde parle de Walker. Ah, oh, c'est dommage. En fait, personne regardait Walker. Faut arrêter.
Si. Regardez les grands-pères tous les dimanches. Alors, il ne faut pas déconner. Bon, hein, alors,
donc, oui. Admettons, mais regardez, oui, parce que c'était nul et parce qu'il y avait Chuck Norris.
Ah oui, mais c'était drôle. Mais c'était simple. Enfin, ça se regarde.
On regardait pas au premier degré. Ah, hein.
Moi, j'étais petit, je regardais ça au premier degré. Mais voilà.
Comme
quoi,
si tu refaisais le Rebelle avec, je sais pas, avec Nathan Fillon, tu vois.
Non. Déjà, si le Rebelle. Ils prendront
une femme. Moi, je suis calme, je dis rien, j'essaye de pas provoquer. Et regardez qui me jette la première pierre.
Bravo, Marina.
Merci à qui, voilà.
En tout cas, c'est CW, c'est ça.
C'est un peu comme toutes les séries qu'ils ont reprises des années 80, enfin MacGyver ou, enfin, il y en a eu plein à un moment et elles sont toutes insipides.
Ah ouais, Five-O et tout ça.
Ils sont en tête. Moi, je suis pareil.
Même moi non plus.
J'ai dit, m'y vois pas qu'il y en a pas une qui fonctionne.
Vous avez déconné ou quoi? Vous avez vu le score que ça a fait? Ça fait le meilleur score sur la CW depuis 3 ans, voire même 5 ans. Alors,
ça fait combien? Parce que si j'arrête pas d'aller qui, et c'est les petits jeunes et tout, ils connaissent pas le. Enfin, je sais pas.
Ça fait combien? 2 millions
2,4 millions.
2,4 millions.
Je pense que c'est la curiosité de ceux qui connaissent, connaissent Walker Texas Ranger, mais ça va se casser la gueule. Hein.
Ah ben moi, je suis persuadé aussi, vraiment.
Ça peut ne que se casser la gueule. Même le drama familial qu'ils essayent de nous instiller, enfin, c'est une catastrophe. Et Mitch Pileggi, ce mec-là, depuis qu'il a vieilli, il ne sert plus à rien. Enfin, c'est fou,
qui, Mitch Pileggi?
Ouais, tu sauras qui.
C'est Skinner de The X-Files. Mais c'est un gâchis de talent, encore une fois. Mais bon, enfin, bon, voilà, quoi. Non, et la pauvre Odette et la pauvre Olive.
Moi, j'aime bien Odette. Nobel.
Ouais, mais c'est pas joué quand même. Moi aussi je l'aime bien, mais bon.
Ah bah t'as pas vu Banshee? Ouais, ça avait très bien joué.
Est-ce que c'est parce qu'elle a bien aussi qui dit ça? On en parlait avec Tom, elle était bien dans Breaking In, moi j'avais bien.
Ouais.
Ah oui, c'est vrai qu'elle était dans Breaking In. Ouais, mais franchement, dans Breaking In, elle avait pas beaucoup de choses à faire.
Elle était bien aussi dans House.
Elle était très bien dans les deux épisodes de Brothers and Sisters.
Mais Odette Nobel est très bien, je vois pas pourquoi vous cherchez à avoir un débat là-dessus. Non.
Elle joue toujours le même rôle, soyons honnêtes.
Bah, par rapport à Geneviève Padalecki, pardon, excusez-moi, il n'y a pas photo entre les deux. Hein.
Non, mais parce que moi aussi, je l'aimais bien dans Supergirl, quoi. Mais encore, c'est la gentille fille Girl Next Door, quoi. Bref.
Bon, enfin bon, c'était nul, quoi. Voilà.
Ah, elle est jouée dans Supergirl, ah mince.
Ouais, dans une
saison. Mélissa Benoît plus Odette Nobel.
Dis donc, toi, putain, t'as raté ça, tu t'es fait. Tiens, tu vas te faire une soirée de fou, toi. Non, mais c'est formidable.
Est-ce qu'on parle de Is Dark Materials saison 2?
Bah, je crois qu'on ne parlait pas saisons 2.
Bah oui, mais là, c'est, je sais pas si tu veux en parler.
C'est juste pour te faire plaisir à qui?
Oui, allez, c'est juste une grosse série que personne ne regarde, en fait.
Mais honnêtement, je suis surprise que pas plus de gens n'en parlent, pour de vrai. Enfin, je veux dire, il y a quand même James McAvoy, bon, pas dans la saison 2, du coup, mais ça, c'est quand même porté par James McAvoy, c'est quand même un grand nom, et puis, genre, c'est... Franchement, au niveau littérature, c'est quand même un incontournable de la fantasy jeunesse.
Clairement,
ouais. Ils ont été échaudés par la saison 1, je pense.
Alors, la saison 2 est vraiment meilleure que la saison 1, mais la saison 1, je ne l'ai pas trouvée dégueulasse. Enfin, franchement, c'était magnifique.
Mais elle est quand même pas très, très bonne.
Elle raconte peu de choses. Enfin, c'est compliqué de s'accrocher, en fait, parce que c'est riche, c'est un monde hyper dense. Et c'est difficile de s'accrocher. Mais
et par contre, le travail d'adaptation est quand même assez fou.
Ouais, incroyable.
Jack Thorne, là, je sais pas comment il s'est démerdé, mais il a découpé le livre de différentes façons. Il a réussi à te vendre un truc qui est quand même vraiment magnifique. En termes de travail d'adaptation, moi je dis chapeau. Hein.
Et visuellement,
c'est
génial. Enfin, franchement, moi, je trouve que pour une série de SF, je connais pas les moyens qu'ils ont, mais même dans les pièces sur la saison 2, la ville de Sitagaz.
Oui.
Voilà. Je trouve ça magnifique. Et pourtant, ça doit être fait. Enfin, ils l'utilisent pendant deux épisodes, donc niveau coût, ça doit pas être dingue. Mais c'est super bien fait. Vraiment, c'est très très bien fait.
C'est toujours sur OCS?
Oui.
Oui. Et même, je trouve que les acteurs sont hyper bien castés et que, en fait, l'histoire, ok, c'est vraiment, on parle d'un monde dont on ne connaît rien, mais pourtant, la mythologie est tellement genre riche Et on comprend, là, pour le coup, la saison 2, elle ne peut pas être plus claire. Alors oui, on a toujours des questions en suspens, mais c'est le but du Kane saison 3. Mais enfin... Franchement, là, si on n'accroche pas, je ne comprends pas, vraiment.
Voilà. Moi, je suis fasciné parce que quand même, il a réussi à rendre tout l'aspect métaphysique. Alors bon, ça va être encore plus compliqué dans le 3, mais dans toute la métaphysique qui est quand même assez dingue du livre 2 est quand même là. Et on comprend tout.
T'es pas complètement perdu. C'est ce que je veux dire. Exactement. Voilà, bref. Excusez-moi.
Très bien.
Cette saison était magnifique. Voilà.
On reste sur OCS avec une série qui n'a pas du tout les mêmes ambitions. Pas parce qu'elle est française, mais voilà, c'est pas le même sujet. 36-15 Monique.
Bah, vas-y, parle-nous-en, Tom. C'est toi qui l'as regardé aussi.
Bah, oui, c'est vrai. Bah, c'est le. Comment dire? C'est une série qui se passe dans les années 80 avec l'arrivée du Minitel. Et trois étudiants. Se disent, bah tiens, ce qui serait pas mal, ça serait, parce que c'est ça qui marche, c'est capitaliser sur les désirs des hommes, c'est plutôt ça, en capitalisant dessus et en ouvrant en fait le Minitel Rose, en inventant un peu le Minitel Rose. Et alors, je sais plus combien d'épisodes, il y en a 8 ou 10 ?
10.
10. Et bah, c'est mignon, c'est bien fait, c'est drôle, c'est bien incarné. Je dirais pas que c'est parfait, parce qu'évidemment, il y a des petites choses à droite à gauche qui, bon, comme toujours, au niveau des acteurs, c'est un peu délicat. Mais l'écriture est bien.
Je sais pas ce que vous avez avec les acteurs français, entre toi et acteurs.
Il y a un jeu.
Ah non,
y a
là,
un
je
jeu
trouve
de la...
que c'était bien, oui.
Alors que toi, c'est dans les français que t'aimes pas, alors bon.
Je sais pas. C'est peut-être le ton qui est différent.
C'est la récitation. En fait, c'est très dramatique, presque théâtral, le jeu français.
Ouais,
je trouve.
C'est ça. Ouais.
Ce qui fait du coup surjouer pour moi. Mm. Mais maintenant, je trouve qu'il y a une nouvelle génération ou juste une nouvelle mise en scène.
Quand il y a des petits jeunes, ça passe un peu mieux. Quoi. Ouais.
Et ben,
c'est vraiment une mise en scène différente.
L'autre jour, j'ai lu un article sur ça. Pourquoi, en fait, on n'aime pas le jeu des Français ? En France, c'est parce que, et à l'étranger, il paraît si bizarre, c'est parce qu'en fait, c'est une question de ton, de voix, et le français est très monotone, contrairement à l'anglais, qui va beaucoup plus dans les tons, et c'est pour ça, en fait, nous, ça nous paraît vraiment monotone tout le temps. Qu'il soit en colère ou qu'il soit triste, ou voilà, c'est très monotone.
Et c'est ça, mais Maxime, quand je te parle, par exemple, tu vois, j'apprécie de t'entendre parler, alors qu'il y a certains acteurs français que je trouve
devrais les muter. Là, toi, tu parles comme ça sans texte. Si tu lisais un texte, ça serait pareil. Mais après, ce qui est bizarre, c'est que même les comédiens de doublage sont meilleurs que les acteurs français. Alors qu'eux, ils lisent un texte et ils jouent juste avec leur voix. Ils sont souvent meilleurs, quoi. Il y a un problème. C'est peut-être les acteurs issus du théâtre ou même du cours Florent. Hein. Peut-être des méthodes un peu archaïques.
Ce qui n'empêche que 36-15 Monique est quand même une très bonne série.
Oui, alors, tout à fait.
Moi, j'avais un petit bémol. Sur j'ai beaucoup aimé aussi sur 36-15 Monique. Je trouvais ça vraiment très frais. Mais justement, j'ai l'impression qu'en fait, on a une patte OCS qui se ressemble beaucoup. Et elle m'a beaucoup fait penser à Irresponsable et à d'autres séries que j'ai vues d'OCS. Et j'ai peur que la chaîne s'enferme un petit peu dedans, en fait. Dans ce truc-là. Bon, je vais me contredire à la série qu'on va dire juste après parce que c'est pas du tout ça, mais ouais, voilà, c'était un peu le bémol. Mais pourtant, les 10 épisodes passent très très bien.
Ouais. Et moi, j'aime beaucoup Noémie Schmidt, voilà, qui est quand même, enfin, c'est une actrice que je suis quand même depuis quelques films et qui mérite quand même d'exploser plus que ça, quand même. Mais enfin, voilà. C'est notre débat.
Non, mais le casting est pas mal. Enfin, je veux dire, au niveau même des gueules, parce que par rapport à la reconstitution et tout, il fallait aussi des physiques un peu disgracieux. Hein, parce que bon, c'est le look des années 80, 70-80. Ouais. Ouais. C'est sympa. C'est sympa. Donc, c'est sur OCS. Alors, la saison 2, je ne sais pas trop jusqu'où ils peuvent aller, mais...
Bah, jusqu'à la gloire, hein. Le Minitel Rose, là, on est quoi, en 1981, à la fin de la saison 1, donc il y a quand même encore de la marge, hein, parce que ça a vécu au moins jusqu'aux fin des années 90.
C'est vrai. En toute façon, s'ils sont vraiment. Si leur business vraiment rejoint l'autre business, pour pas spoiler, putain, c'était nul ce que je voulais dire. Ouais. ça promet quand même de gros moyens pour la saison 2.
Je vois pas de quoi tu parles.
Donc, oui, je vois,
on va acquiescer, mais oui, d'accord, ok.
Okay. Merci de me. Voilà.
Non, mais je vois ce que tu parles. Je vois ce dont tu parles.
Ah, merci. Ah,
ça prend de l'ampleur, on va dire.
Voilà.
On reste dans la série française, on reste pareil dans une série historique, puisque là on est dans les années 70 avec OVNI, qui est arrivé sur Canal+, il y a quoi, il y a trois semaines, enfin mi-janvier.
Non, c'était début. J'allais dire début février.
C'était début janvier. Et donc c'est une série qui nous raconte un peu l'histoire autour du GEPAN, c'est-à-dire le groupe d'études des phénomènes atmosphériques le N, je ne sais plus, mais en gros,
c'est nuages.
et nuageux. En gros, c'est l'étude un peu des phénomènes OVNI en France, puisqu'il a existé, enfin, il existe toujours le GEPAN.
Et qui est basé à Toulouse.
Ouais.
Et que je ne comme connaissais pas, alors que moi, ça fait 33 ans que je suis toulousain, plus ou moins, et je ne connaissais pas du tout. Je suis même déçu et surpris de l'apprendre par une série. Donc voilà.
Et voilà.
Phénomènes aérospatiaux non identifiés.
Ah oui, donc oui, d'accord. Non, spatiaux non identifiés. Ben non.
Ben GEPAN, ça va être.
Aérospatiaux non identifiés. Le identifié,
ah, le N,
juste ignoré.
Non identifié. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Donc, c'est créé par Clémence
d'Argent et Martin
Douer, qu'on recevra dans un prochain Serial Causeur, qui va nous parler un peu plus de l'écriture d'OVNI. Stéphane, est-ce que c'est bien OVNI ?
C'est même très, très bien OVNI. C'est pas du tout. Alors, je n'avais pas regardé le pitch ni les premières images, donc j'étais complètement surpris. J'ai été surpris par le ton, qui est quand même pas aussi drôle que je m'attendais à ce que ce soit vraiment drôle, mais en fait ça n'allait pas tant que ça, et je suis surpris par la tournure des événements. Et franchement, la série, moi je trouve qu'elle galère un petit peu dans les deux premiers épisodes quand même en termes d'écriture, mais une fois bien installée, ça ne fait que monter en puissance, et ça vaut vraiment le coup d'œil, quoi. Ça rencontre beaucoup de
fois, je trouve que ça les deux premiers installent pas mal les choses, ensuite ça rame un petit peu.
Ah bah tu vois. Ben, moi, je trouve que ça raconte quand même beaucoup bien la France de Giscard, et c'était quand même assez drôle, ouais. Quoi.
Je n'ai pas été dans cette analyse-là, mais c'est surtout au niveau, par exemple, des arcs en fait, narratifs, où tu dis ils ont vraiment une grosse histoire, ils savent où ils vont. D'ailleurs, quand on voit le dernier épisode, c'est un gros retournement qui peut amener beaucoup de choses dans la saison 2. Mais tu sens qu'ils veulent aller quelque part, et les sous-intrigues, ça va, ça pollue pas non plus le fil rouge, quoi. C'est surtout parce que c'est bien incarné. Bon, Melvin Poupeau, j'ai un peu de mal. Bon, Aki aussi un peu de mal. C'est vrai que le personnage est pas non plus le plus drôle et le plus intéressant.
Ouais. Non, mais il est
plus sympathique.
Mais oui, j'aime beaucoup que ce soit un mauvais père, que ce soit un mauvais mari, et que ce soit un mec qui arrive pas à travailler avec des gens, quoi. Enfin, c'est rare d'en trouver. Ben, moi, il me fait penser à Michael Scott, donc c'est quand même fou,
non,
quoi.
N'allons pas jusque-là.
Ah bah si.
Mais après, c'est pas très drôle non plus. C'est-à-dire que t'as quand même un ton sérieux, mais t'as juste une sorte de petit décalage, en fait, par-ci, par-là. Mais c'est pas 100% comique.
Non. Mais c'est parce que c'est, enfin, pour moi vraiment, c'est je redis ça, c'est la patte OCS, où à chaque fois c'est pas hilarant. Ouais. C'est pas une comédie ou une sitcom, et on est vraiment là, enfin, pour moi, dans OVNI, que j'ai adoré.
36-15 Monique est quand même beaucoup plus drôle que OVNI.
Pour moi, j'ai pari, je l'ai regardé comme une série avec une intrigue et qui m'a vraiment intéressé. Mais j'ai pari, je trouve pas ça drôle. J'ai pas trouvé l'humour qui me ferait vraiment rire. Celle qui me fait sourire, oui, pourquoi pas, mais qui me fait rire, non.
Et après, la patte OCS, c'est une série Canal, donc il y aura pas non plus de patte OCS, peut-être une patte française, nouvelle vague, entre guillemets, quoi. Une patte Fémis, peut-être.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Oui, peut-être une patte Fémis, oui, c'est peut-être plus ça, je me trompe. Mais à côté de ça, je trouve que c'est l'ambiance de vérité ou pas vérité à rechercher, qui donne le côté un peu absurde de la série, et qui justifie l'absurdité des deux personnages joués par Quentin Dolmer et je sais plus comment...
Daphné Patakia.
Voilà.
Et
où je trouve que eux, pour le coup, ils se font vraiment dans l'intrigue, dans l'univers, et du coup c'est un délice à regarder. Franchement, moi je m'attendais pas à autant prendre mon pied devant OVNI.
Eux deux sont vraiment pas mal. Mais juste pour rebondir sur ta mention de Michael Scott, là, Stéphane, la différence, et tu sais que je n'apprécie pas énormément The Office, la différence, c'est que Michael Scott joue toujours par rapport aux autres, dans le sens où il a une certaine générosité quand même par rapport aux autres. Alors que pour moi, comment il s'appelle déjà, Mathieu, c'est ça ?
Didier Mathieu.
Didier Mathieu.
Oui, voilà. Le personnage de Didier Mathieu, pour moi, il est hyper égoïste dans tout.
Ah oui ?
Jamais, mais tu vois, bah, il va pas.
De temps en temps, si, de temps en temps, il a des petites touches quand même. Ça lui, il se rattrape, mais ça dure pas longtemps, quoi.
Mais donc pour moi, non, il est juste. Non, en fait, il est chiant parce que du coup, et même quand il y a de l'interaction avec les autres, pour moi, il n'y a pas d'intérêt par rapport à son personnage. Voilà.
J'espère qu'en saison 2, vu ce qui arrive, il va changer. Mais bon, après, voilà.
Vous ne trouvez pas aussi que. Moi, je l'ai vu le personnage pas comme quelqu'un d'antipathique, mais vraiment un personnage des années 70.
Ouais.
L'époque où les hommes ne devaient pas montrer leurs sentiments, c'était tout pour leur carrière. Et les enfants, c'était ces êtres qu'on retrouve. Le
une
soir,
fois qu'on rentre à la maison. Ouais,
voilà, une fois qu'on rentre.
Oui, ça, c'est pas dérangeant. Enfin, c'est pas ça qui m'a plus dérangé pour le coup.
Eh ben, en fait, moi, ça m'a surpris de voir que ben, sa femme, est, ben, c'est sa collègue et qu'ils ils sont divorcés. En fait, c'est un couple moderne, mais qui n'est pas si moderne que ça. Et c'est ça qui était. Le décalage était quand même assez énorme avec ben, Didier, qui est quand même un gros con de mec des années 70. Quoi. Ouais.
Non, mais c'est ça qui fait que la série, elle est actuelle et elle nous parle en soi.
Oui,
c'est cette femme qui veut le pouvoir. Enfin, veut le pouvoir entre guillemets, hein, mais qui veut plus de pouvoir dans sa vie et ça résonne beaucoup avec aujourd'hui, alors que on est dans les années 70 et qu'ils ont vraiment installé leur univers, ne serait-ce que sur la photographie déjà,
oui.
T'as plein de trucs. Enfin, bon,
et la musique.
Oui, et c'est vrai que la musique est très, très bien. Et donc c'est sur Canal+.
Ouais, c'est un cours de diff.
Pour terminer, Stéphane, toi qui regardes tout ce qui reste, Call Me Cat, qu'est-ce que c'est ?
Ah non, mais c'est nul. C'est l'adaptation américaine d'une série britannique que je ne connaissais pas. J'en ai parlé à Maxime, je lui dis mais tu te fous de ma gueule, comment tu fais pour aimer Miranda vu Call Me Cat ? Alors on m'a dit que c'était pas du tout la même chose, donc je lui dis ok, d'accord. Mais Call Me Cat, c'est ignoble. C'est un gâchis de talent, enfin... C'est le gâchis de talent de Susie Curse, mais bon, voilà, après, voilà. Mais non, mais c'est ignoble. En fait, ils savent pas jouer, c'est pas drôle, c'est grossier. Enfin, c'est. Et puis, le fast caméra tout le temps, non, merci, moi, si un peu arrêté de me parler directement. Et j'ai regardé 4 épisodes. Je sais pas pourquoi. Ouais. Alors, comme disait Akit tout à l'heure, j'ai une fascination, j'y retourne, alors que je sais que c'est un truc qui m'énerve au bout de 2 secondes que je le regarde. Mais voilà.
C'est terriblement gênant comme série. Enfin, pareil, je regarde le premier épisode, j'envoie un message à Stéphane, je demande s'il l'a vu, et je lui dis, mais j'ai jamais vu un truc aussi merdique de toute ma vie. Mais vraiment, je pense, hein, parce que j'ai ri pendant l'épisode, mais vraiment ri 4 ou 5 fois, tellement c'était mauvais, pas drôle, extrêmement mal joué, Maïm... Balik. Avec, oui, juste, comme tu disais, son regard caméra, c'est tellement... inconfortable. Elle surjoue, elle surjoue son personnage qui déjà est un surjeu. Donc c'est juste horrible à voir. Et enfin les intrigues, oh là là, c'est écrit avec le dos d'une cuillère quoi.
Vous en aviez parlé tellement mal, j'étais curieuse et j'ai regardé les 2 premiers. Et en fait, je pense qu'il manque à Maïm Balik justement, c'est la vulnérabilité. Alors calmons-nous, j'irai pas jusque là. Mais en fait, Miranda Hertz, son gros, gros avantage, c'est qu'elle paraît vulnérable et hyper empathique. Et là, clairement, dans le personnage de Kat, il n'y a pas du tout ça. Donc, on n'a pas envie de l'apprécier. Et bon, après, effectivement, il y a plein d'autres soucis. Hein. Mais effectivement, je pense qu'il y a un mauvais casting là. Et je tiens aussi à préciser pour les fans de Lucifer qu'il y a Tom Ellis dans Miranda, donc cette série anglaise, et qu'il est trop bien dedans. Voilà.
Mais à la limite, tu vois, Miranda, moi, je le rapprochais plus de, en termes de personnage d'une Anna Gatsby.
Ah oui.
Dans la dépression, mais aussi dans le type d'humour un peu inconfortable, en fait, oui. Où quand elle rit beaucoup d'elle-même et elle rit des autres.
Elle est malaisante,
mais...
parfois. Voilà, elle est vraiment malaisante.
Dis pas ça, Tom, il aime pas ce mot.
Il y a un peu...
Ah, ça sera coupé.
Mais alors que dans Call Me Cat, en fait, c'est même... elle est pas malaisante. Elle veut bien faire et non, ça marche pas. Oh là là, non.
Pour le coup, l'épisode 4 où elle se dispute avec sa mère et qu'elles vont chez le psy, où elles se disent leurs 4 vérités vis-à-vis de la mort du père, c'était le seul truc un tantinet intéressant. Mais après, c'est quand même écrit. C'est même pas écrit.
De toute façon, ça ne durera pas. Hein. Enfin, ça a commencé devant 5,6 millions, après ça a baissé à 3,3 et là on est à 2,4.
Ah bah ouais,
c'est quoi, CBS?
Non, c'est Fox.
C'est
Fox, ouais. Ah ouais.
Quoique Fox, il pourrait peut-être la garder.
Mais libérer le respirateur pour quelqu'un d'autre. Hein.
Mais en fait, ils ont mis la dernière saison à côté de The Last Man Standing. Donc, comme c'est annulé à la fin de la... Enfin, ça s'arrête à la fin de la saison, je pense qu'ils se libéreront une case, donc ils pourront mettre autre chose, quoi.
C'est format sitcom, hein, c'est
Carpenter
et tout.
C'est trop long.
Personne ne regarde. Ouais,
c'est trop long.
Attends, on n'a pas parlé parce qu'à la fin des épisodes, le cast, ils sont là, ils te font coucou à la caméra, ils sont là, ils s'en montrent tout le cast, ils te disent coucou à la caméra. C'est perturbant. Voilà, c'est
tout. Je me suis même demandé s'ils espéraient que quelqu'un leur fasse coucou en retour.
Le retour de Ted Danson après la fin de The Good Place dans une série, c'est Mr. Meyer.
Oh, moi j'ai été déçue. Hein.
Créé par Tina Fey
et Marina. Robert Carlock.
Bah déçue, je trouvais que c'était pourtant Tina Fey, Ted Danson, enfin il y avait tout bien et moi j'ai trouvé, je sais pas, j'ai pas rigolé une fois. Ted Danson il est bien, hein, c'est pas la question, mais
tout le monde est bien dans la série.
Pardon. Oui.
Tout le monde est bien dans la série.
Non,
en fait.
En plus c'est que tout le monde, enfin il y a pas genre. Quelqu'un qui joue mal ou enfin tout est bien. Il y a la petite de
Speechless, là. De
Speechless qui est très bien. Enfin moi j'aime beaucoup, mais j'ai pas rigolé une fois. Je sais pas. Alors je suis peut-être morte à l'intérieur, hein, mais pas du tout. J'ai trouvé ça ennuyeux, poussif. J'ai pas du tout rigolé. Comment elle s'appelle la nénette, la mince? Holly Hunter, pareil, qui pourtant joue bien. Hein. Enfin, c'est une très bonne actrice. Là, je sais pas ce qu'elle a essayé de faire. Je sais pas. Je m'attendais à beaucoup. Pareil, moi, je suis pas trop sitcom. Il y en a très peu qui me font rire et tout. Là, je me suis dit, il y a Ted Danson, encore frais de ce Good Place et tout, machin. Et pas du tout. Hein. Moi, je me suis ennuyée, mais alors, j'ai pas du tout trouvé ça bon.
J'ai été très très sceptique sur les deux premiers épisodes où j'ai trouvé ça, oui, un peu poussif. Ça m'a fait tenir parce que le cast, quoi, Ted Danson, voilà, post The Good Place, forcément j'étais obligé de le suivre. Le 3 était mieux et le 4, j'ai vraiment ri à Holly Hunter qui parle à Alexa en cold open de l'épisode. Et je rigolais pas. Et au bout de 30 secondes, quand tu vois le twist, mais vraiment, c'était tellement drôle. Et je me suis dit, ok. Bon, si elle peut nous sortir des choses comme ça.
Et en plus, c'est Tina Fey qui a écrit cet épisode-là, et là, on reconnaît sa patte, et c'est ça qui était drôle. Enfin, voilà. Il y a des ajustements quand même à faire en termes de comédie et d'écriture, oui. mais en fait, moi, j'ai l'impression de revoir la première saison de 30 Rock, où c'est que c'est un peu aussi, quoi. Ça aussi, entre le bon et le moyen et le pas très très bon, mais tu sens qu'il y a du potentiel. Et en fait, je crois que je continuerai parce que moi, ça me fait rire. Je trouve ça, les personnages sont vraiment bons et ça a du fond, donc pour le coup c'est pas dégueulasse, voilà,
et ça marche plutôt pas mal.
Ah bon, ah bah tu vois, pour le coup je suis
c'est
surpris.
Les critiques sont pourtant pas hyper
qu'est-ce que j'ai vu
l'épisode avec Andy McDowell, l'épisode 3 était vraiment, moi ça m'a fait mourir de rire quand même, mais bon voilà.
5 millions, ça va, 5 millions.
Oui, pour une comédie NBC, franchement, c'est pas dégueulasse. Ouais,
en live plus 3, 7 millions, voire 8, tu vois. On termine par la création pas originale de TF1, La Promesse, puisque c'est encore un enfant qui disparaît.
Ouais.
Qu'est-ce que ça donne? Qui a osé regarder? Parce que ça a cartonné. Hein.
Moi, j'ai osé parce que j'ai entendu que ça cartonnait, donc je me suis dit quand même, je vais jeter un œil. C'est du Hans Landois, donc j'aimais beaucoup... sur Engrenage. On retrouve un petit peu de temps en temps des fulgurances d'Engrenage, mais en fait c'est tout pourri, donc enfin ça tient pas la route. Le premier épisode, il y a un twist, tu le vois venir à la moitié de l'épisode sur 55 minutes, tu te dis bon bah d'accord, me prends pas pour un con, allez accélère. Donc il est établi, tu te dis bon bah d'accord, super, c'est intéressant l'épisode 2, l'épisode 3, et puis ça commence à partir un peu en catastrophe, et puis alors le final, j'ai trouvé ça ridicule. Encore une fois, on te sort un méchant qui sort d'un chapeau, qui a un problème psychologique, et puis voilà quoi. Donc au bout d'un moment, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes stéréotypes, il y a rien de neuf, et c'est bien ça qui est dommage. Et ce qui me frustre le plus, c'est que le public, il suit des trucs pareils, quoi. Il se jette dessus comme si c'est sur la pauvreté, sur le monde, et il dit ouais, c'était trop bien. Et alors que non, c'était pas trop bien. Mais c'est bien, tu regardes une série française originale, au moins, pas une adaptation comme je te promets.
Ils sont adeptes des faits divers un petit peu aussi, les Français. Hein, donc.
Oui, alors pour le coup, on l'a survendu avec oui, c'était pendant la tempête 99 et tout. Ouais, mais sauf que bon, ta tempête, c'est de la pluie qui tombe, quoi. Donc c'est un peu frustrant, quoi. Je sais pas, il y avait beaucoup, il y avait des promesses, mais elles ont été très peu tenues, quoi. Donc voilà, dommage.
Eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour des petites nouveautés. Merci beaucoup. À qui?
Bah de rien, Tom.
Bah écoute, je t'en prie. Merci Maxime.
Mais de rien également.
Merci Stéphane.
Eh bien, c'était avec plaisir, toujours.
Oh, écoute. Et merci Marina.
Mais de rien, Tom.
Ah oh, bah oui. On se retrouve très bientôt pour parler de série, évidemment. Et n'oubliez pas, c'est un causeur partout.
Bye bye.
Salut, salut.
À travers l'univers intergalactique.
Et même au-delà.
Et même au-delà.